You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Je suis en studio avec Nathanaël Bloch pour la rubrique Europa Voice numéro 20, où il analyse l'actualité politique en Europe. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Audrey.
Nathanaël, aujourd'hui vous nous parlez d'abord de l'Italie de Salvini qui serait peut-être financée par la Russie.
C'est une info capitale effectivement Audrey de cette fin de semaine. Le parquet italien a ouvert une enquête suite à des révélations de la presse selon lesquelles la Ligue aurait reçu un financement occulte de la Russie. Alors le montant de ce financement occulte serait de 60 millions d'euros et aurait été réalisé en marge d'un contrat pétrolier avec la société italienne d'hydrocarbures Eni.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces soupçons de financement occulte qui, faut se le dire, sont assez fréquents en politique?
Oui, malheureusement, vous avez raison Audrey, les soupçons de financement occulte et les financements occultes sont malheureusement assez fréquents en politique. Mais d'abord, et c'est ce qui est toujours assez surprenant pour des partis de droite dits nationalistes, c'est qu'ils se retrouvent en fait empêtrés dans des histoires de financement occulte et d'ingérence d'une certaine façon avec des puissances étrangères, ce qui paraît un peu contradictoire avec notamment la politique étrangère de la Ligue. Ensuite, et c'est qu'on a maintenant en fait un historique assez fourni de partis d'extrême droite européens qui sont liés à la Russie. Alors, il y a bien sûr cette nouvelle histoire depuis cette semaine de la Ligue italienne, mais il ne faut pas oublier non plus le FPO en Autriche, l'AFD en Allemagne, et bien sûr, un peu plus proche de nous pour SBS French, c'est le Rassemblement National en France. À noter aussi que ces quatre partis siègent ensemble au sein du Parlement européen, dans le groupe Identité et Démocratie, et donc ont tous des liens avec la Russie.
Est-ce que finalement ils ont une politique commune vis-à-vis de la Russie?
Alors oui, en fait, ces soupçons de financement occulte mettent aussi en lumière la politique commune de ces différents partis d'extrême droite vis-à-vis de la Russie, parce que ces différents partis réclament tous la levée des sanctions économiques imposées à la Russie par l'Union européenne après l'annexion de la Crimée en 2014. Et donc, sur les questions de financement, il y a des enquêtes, et en plus de l'Italie, d'autres enquêtes sont en cours, notamment avec l'Autriche, mais aussi avec le Front National, qui en 2014, enfin le Rassemblement National à l'époque Front National, avait demandé un emprunt auprès d'une banque russe pour financer sa campagne européenne. Chose pour nos auditeurs qui est aujourd'hui strictement interdite, qu'on ne peut plus financer une campagne européenne avec de l'argent provenant de banques étrangères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer, Audrey? C'est à la justice, évidemment, de se prononcer sur ces présomptions de financement occulte. En tout cas, ce qui est certain dans le cadre de la Ligue et de la Russie, c'est que les relations italiennes, russo-italiennes, se portent à merveille. Vladimir Poutine était effectivement en visite à Rome il y a une semaine de cela, et il avait évoqué un accord de coopération entre son parti Russie Unie et la Ligue.
Et puis on revient sur les récentes nominations au poste clé de l'UE avant le vote du Parlement mardi prochain.
Oui Audrey, alors on peut se demander « Who runs the world in Europe, girls ?» parce qu'effectivement dans Europa Voice nous avons longuement traité les élections européennes et les négociations pour les postes clés. Alors au-delà des querelles de chapelle et des tractations entre pays et partis, ce qui ressort des récentes nominations au poste clé, ce sont enfin que les femmes vont avoir des rôles importants à venir au sein des institutions clés.
Et de qui parle-t-on?
Alors, on parle bien sûr, pour nos éditeurs, de Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie française à la tête du Fonds monétaire international depuis 2011, dont le nom a été proposé pour la Banque centrale européenne. Mais on parle aussi d'une personnalité peut-être un peu moins connue pour nos auditeurs, Ursula von der Leyen, qui est l'actuelle ministre de la Défense allemande, proposée pour la présidence de la Commission. Alors, concernant Ursula von der Leyen, il y a plusieurs choses qui sont remarquables. D'abord, ce serait la première femme, Audrey, à accéder à ce poste prestigieux de présidence, à la présidence de la Commission européenne. Et ensuite, et c'est un fait notable, elle contrevient à la règle du Spitzenkandidat.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est les Spitzenkandidat?
Alors les Spitzenkandidat, Audrey, on était revenu plusieurs fois avec nos auditeurs sur cette règle, mais comme répétition vaut pédagogie, je vais effectivement rappeler ce qu'est cette règle des Spitzenkandidat. Alors l'habitude, en fait, veut que le futur président de la Commission européenne soit un candidat du parti vainqueur aux élections. Et donc, dans notre cadre, comme le PPE, le Parti Populaire Européen, était arrivé en tête, c'est l'Allemand Manfred Weber, chef de file du Parti Populaire Européen, qui aurait dû être désigné. Alors, pour différentes raisons, Audrey, l'opposition, notamment du président français Emmanuel Macron, mais aussi, il faut le dire, un charisme que beaucoup lui trouvent absent à Bruxelles, font que le nom de Manfred Weber a été assez vite écarté. Alors, ça ne veut pas dire non plus que Ursula von der Leyen, elle fait l'unanimité en Europe, par exemple, et c'est un fait assez intéressant pour nos auditeurs d'Europa Voice, c'est qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, donc du même pays que Ursula von der Leyen, s'était notamment abstenue lors du vote sur son nom, tout en votant en faveur de l'ensemble des nominations pour les différents postes. Donc, chose assez étrange, c'est-à-dire qu'elle valide l'ensemble des postes clés de la Commission au sein de l'Union européenne, mais quand il s'agit de celui de la présidence de la Commission où on retrouve une Allemande, à ce moment-là, elle s'abstient. Alors, l'autre femme en vue pour ces postes clés, c'est donc Christine Lagarde. Et en fait, la Banque Centrale Européenne serait une étape assez logique et supplémentaire pour celle qui a enchaîné les premières fois. Christine Lagarde, elle a été présidente du plus grand cabinet d'avocats d'affaires international Baker McKenzie. Elle a été aussi ministre des Finances donc de France, d'un pays du G7 à l'époque, et patronne du Fonds monétaire international. Et en fait, les dirigeants européens sont arrivés assez finalement à se mettre d'accord sur son nom, car la Banque Centrale Européenne, et c'est important de le rappeler pour nos auditeurs, était plutôt perçue comme un ajustement à faire en fonction des décisions prises pour les autres postes clés. C'est-à-dire que d'abord, en fait, les dirigeants européens voulaient s'arranger pour notamment trouver un nom pour la présidence de la Commission, pour la présidence du Parlement européen, et puis ensuite, en fait, ajuster en fonction pour la Banque Centrale Européenne.
Alors, est-ce que tout est joué d'avance?
Alors non, Audrey, tout n'est pas joué d'avance. La ministre allemande de la Défense, elle a été désignée par le Conseil européen à la présidence de la Commission, mais elle devra encore convaincre en fait les députés européens ce mardi 16 juillet où un vote secret sera organisé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il lui faudra au moins 376 voix pour obtenir la majorité absolue. Elle est certaine, Ursula von der Leyen, d'obtenir le soutien des 182 députés du Parti Populaire Européen. Mais ça ne suffit pas à avoir la majorité. Donc les tractations vont bon train avec les autres partis. On sait déjà, par exemple, que les 75 eurodéputés écologistes voteront contre. Donc reste maintenant à convaincre à la fois les socialistes et démocrates et les libéraux de Renew Europe, qui chacun d'eux, en fait, mettent des conditions au soutien de la candidate. Pour les socialistes, en fait, ces derniers ont dressé une liste de courses en prenant des requêtes et des exigences sur le budget, le climat, les migrations. On sait notamment que Franz Timmermans, le leader des socialistes, qui est le Spitzenkandidat des socialistes si ces derniers étaient arrivés en tête, en fait, il est toujours en embuscade pour revenir dans la course si la candidature de Ursula von der Leyen échoue. Quant à Renew Europe, donc de parti dans lequel siègent notamment les Français de Renaissance et d'Emmanuel Macron, les tractations portent plutôt sur les nominations et de la tambouille politique. Le chef de file de Renew Europe, Dacian Ciolos, exige notamment que la commissaire libérale, Margaret Vestager, se retrouve sur le même piédestal que Frans Timmermans au sein de la prochaine commission. Donc en fait, que le Renew Europe pèse autant que les socialistes dans le cadre de la prochaine commission. Donc on le voit bien, rien n'est joué d'avance. Et Ursula von der Leyen va devoir aussi convaincre d'autres eurodéputés que ceux du Parti Populaire Européen pour accéder à la présidence de la Commission. Donc mardi 16 juillet, nous verrons si le Parlement élu fera preuve d'autant de progressisme et de modernité que les dirigeants européens en validant le profil de ces deux femmes d'expérience au poste clé de l'Union Européenne.
Merci beaucoup Nathanaël de nous éclaircir comme ça sur la politique en Europe chaque semaine.
Merci beaucoup Audrey et je souhaite également un très bon Bastille Day à nos auditeurs d'SBS.
Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour la Europa Voice numéro 21.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.